Bonjour à tous. Il y avait quelques plaisanteries à l'époque du groupe de jeunes sur la taille de Marie. On a vécu des bonnes choses, des bons souvenirs. On était une chouette équipe au groupe de jeunes. Puis déjà avant, en fait, Marie, hein, si on remonte encore un petit peu plus, à l'église de Mérin. C'est une joie pour moi d'être avec vous ici ce matin. Joie de penser à l'église où on a grandi, d'être aussi représentant d'une autre communauté qui vous salue ce matin, l'église de la Colline à Crissier. Et puis, une joie d'être avec vous. Merci pour l'invitation et un plaisir de partager ce message. J'étais venu prêcher ici, je m'en souvenais. J'ai regardé dans mes archives, c'était en 2002. Comment ça a daté, hein? J'étais à l'époque en fin de formation à Emmaüs, en stage, dans encore une autre communauté de notre fédération, à l'église de Villars. S'il y en a qui se souviennent de ce que j'ai dit, alors là, vous êtes vraiment trop forts. J'ai hésité de vous demander, en fait, s'ils ne se souviennent pas, peut-être que je ne redis rien cette fois. Parce que... Non. Comme souvent, quand je prends la parole pour amener un message, après la louange... Je me dis que j'aurais pas besoin d'ajouter grand-chose. Parce que dans les chants qu'on chante, dans toutes ces paroles qu'on a proclamées ce matin, si on les vit, alors le prédicateur a plus tellement besoin de partager pour encourager, pour exhorter, pour nous mettre en route. Et il y avait beaucoup déjà dans ces chants qu'on a chantés, qu'on a proclamés. Et puis je vais m'inscrire un petit peu dans cette ligne. Et puis dans la ligne aussi de l'introduction de Marie, avec ce cocon du marsupilami. C'était beau, cette image du nid. Et puis de cette invitation à sortir de notre zone de confort. Et c'est vrai qu'en voyant ce nid du marsupilami, je me suis dit que j'ai repensé à Jésus. Alors lui, il n'était pas dans un nid de marsupilami, hein, mais dans le royaume, dans la gloire du ciel. Et puis il a quitté cette zone de confort, si on veut dire, pour venir jusqu'à nous. Et voilà, c'est un petit peu à sa suite que j'aimerais nous entraîner ce matin. Quelqu'un disait, le problème avec la Bible, c'est pas ce qu'on comprend pas, c'est ce qu'on comprend. Ce qui est dérangeant avec la Bible, c'est pas tellement ce que je comprends pas, mais c'est ce que je comprends. Et une grosse partie de ce problème, c'est Jésus-Christ. Jésus est dérangeant. Vous aviez remarqué déjà la chose en lisant les évangiles? Et où que vous soyez dans votre cheminement spirituel, que vous soyez chrétien de longue date, ou bien que vous soyez ici parce que vous êtes en chemin, en train de vous poser des questions sur Jésus ou sur Dieu, Jésus est dérangeant. Jésus dérangeait de son temps, et puis il dérange encore aujourd'hui. Et il dérange, mais il dérange de la bonne façon. Il dérange nos petites vies bien rangées, nos certitudes, notre confort, mais c'est pour notre bien. Il y a eu un incendie chez nous il n'y a pas très longtemps, qui a démarré dans le local à poubelle de notre immeuble, et puis les pompiers sont venus taper aux portes au milieu de la nuit pour déranger les gens dans leur sommeil. Notre voisine du dessus, notamment, a dû vraiment être secouée, ils ont dû faire du bruit, etc., pour qu'elle puisse la sortir de son sommeil, et ensuite, ils ont évacué tous les appartements. Heureusement, il n'y a pas eu de gros dégâts, ni de gros soucis, mais voilà. Et je crois que Jésus vient nous déranger, des fois, dans une certaine torpeur qui peut être la nôtre. Pour notre bien, pour donner du sens à notre existence, Jésus me dérange. Et quand je lui ai demandé de me dire un petit peu, Seigneur, donne-moi un message pour l'église de Nyon, il m'a dit, je vais déjà te donner un message pour toi. Donc Jésus me dérange, il me perturbe. Et puis je crois et j'espère qu'il va aussi en déranger quelques-uns parmi nous, parmi vous, ce matin, nous perturber, plus d'une, ce matin, comme il le fait si on ouvre l'évangile. Et sachez seulement qu'il le fait avec amour, qu'il le fait avec bonté, avec sagesse, et puis surtout, comme je le disais, qu'il le fait pour nous sauver la vie. Mon grand-père, Robert Chanson, était évangéliste, et puis il faisait pas mal de porte-à-porte. Et je me souviens d'une histoire qu'il m'a racontée, une fois qu'il frappait une porte, il se présente comme chrétien qui vient apporter le message de l'amour de Dieu. Et puis cette dame de l'autre côté de la porte dit « Ah, fichez-moi la paix !» Et il a quasiment mis son pied dans la porte et il a dit « Eh ben, c'est exactement ce que je viens faire. Je viens vous ficher la paix. » Et puis cette dame a été intriguée, elle a ouvert la porte. Et puis, je ne sais plus exactement la suite de l'histoire, mais en tout cas, il avait pu lui parler de la paix que Dieu donne, de la paix que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Et c'est vrai, je ne sais pas si cette dame où elle en était dans son parcours, mais je crois que si nous avons besoin d'être consolés, d'être déchargés, de recevoir la paix, si on a besoin de recevoir la paix ce matin, alors nous pouvons venir à Jésus tel que nous sommes. Jésus nous donne sa paix. Nous donne sa consolation, il nous réconforte, il nous décharge quand nous en avons besoin. Et nous en avons tous besoin à certains moments de notre vie. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et il le fait. Mais si notre vie est bien confortable, trop tranquille, trop bien huilée, alors, je te l'affirme aujourd'hui, Jésus est dérangeant. Jésus est un grain de sable qui va venir se mettre dans le rouage ronronnant de ta vie. Jésus réconforte ceux qui sont perturbés, mais il perturbe ceux qui sont confortables. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci Jésus parce que tu es celui qui vient donner la paix, la consolation, qui vient nous décharger quand nous croulons sous le fardeau. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu-là pour ceux qui en ont besoin ce matin et pour chacun de nous dans certaines périodes de nos vies. Mais merci Jésus parce que tu nous viens aussi pour nous bousculer, nous déranger, pour ne pas nous laisser marcher sur un chemin qui pourrait être confortable, mais qui nous éloigne de toi, qui nous éloigne de la vie que nous avons en toi. Alors nous voulons aussi t'accueillir ce matin pour que tu nous bouscules, que tu nous déranges, que tu nous mettes en route pour donner du sens à nos vies et pour que nous puissions nous mettre en route à ta suite. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez l'ouvrir dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10. Et puis si vous n'avez pas de Bible avec vous, vous pouvez soit écouter, soit suivre le texte qui va aussi s'afficher à l'écran. Ne gâche pas ta vie à la réussir. Ce sera l'intitulé de mon message ce matin. Trop de gens gâchent leur vie en essayant de la réussir. Trop de chrétiens gâchent leur vie en la réussissant. On dit « il a réussi sa vie ». Elle a réussi sa vie. Il a une bonne situation, une bonne épouse. Elle a fait des études. Elle a une belle maison, une jolie famille. Vous vous souvenez du marsupilami, là ? Un métier qui lui plaît. Il a une bonne retraite, un deuxième, un troisième pilier. Il vit en paix avec ses proches. Il a un bon travail. Il aime le ski. Elle joue du violon. Un petit peu les clichés, là. Etc., etc. Réussir sa vie. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, hein, évidemment. Mais ce matin, j'aimerais plaider avec vous, ne gâchez pas votre vie à la réussir. Ne gâchez pas votre vie à la réussir. Matthieu 10, on va lire le verset 39 pour commencer. Matthieu 10, 39, « Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. » Celui qui cherche à réussir sa vie, à la sauver d'une certaine façon, la perdra. Et celui qui l'aura perdu à cause de moi, dit Jésus, la réussira. L'autre jour, j'entendais ce chant du groupe Antidote. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce groupe, je pense, c'est un groupe que j'aime bien. Et il y a une chanson qui dit « Rouler en Porsche et être millionnaire, est-ce tout ce que tu comptes faire de ton passage sur la terre ?» Je trouvais intéressant comme parole. Et je pense que non, bien sûr que non. Si je vous demandais un petit peu les uns les autres ici ce matin, non. En tout cas, on ne le dirait pas comme ça. On n'a pas cet objectif de rouler en Porsche, d'être millionnaire. Mais alors quoi? Quel est le but? Qu'est-ce qui rend ta vie différente de celle des autres? Comment veux-tu réussir ta vie? Celui qui cherche à réussir sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la réussira. Matthieu 16, verset 26, vous n'avez pas besoin d'aller voir si vous avez ouvert votre Bible. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Sous-entendu, rien. Il n'y a rien qu'on pourra donner pour racheter sa vie. Le seul qui pouvait donner quelque chose pour racheter notre vie, il l'a fait, c'est Jésus-Christ à la croix. Il a donné sa vie pour racheter la nôtre, pour que nous ayons la vie. On va revenir dans Matthieu 10. Et on va regarder ce texte de Matthieu 10 quelques versets auparavant. On va aller quelques versets avant ce verset 39 qu'on a lu tout à l'heure. Matthieu 10, dans ce passage, dans ce chapitre, Jésus envoie ses 12 disciples pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu au monde. Et puis, il leur parle des difficultés qu'ils vont rencontrer dans la mission, et puis des persécutions qui les attendent. Et on va lire à partir du verset 28, Jésus appelle ses disciples à ne pas avoir peur. Et voilà ce qu'il va leur dire. « Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. » Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Wow. Jésus dit, ne craignez pas. Ne craignez pas de souffrir. Ne craignez pas d'être persécuté, de mourir même. Il n'y a aucune raison de craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de vous faire mourir à l'intérieur, de vous faire vraiment rater votre vie. Vous n'avez rien à craindre. Rien à craindre, sinon Dieu lui-même. Celui qui tient votre vie dans ses mains. Ce verset peut paraître négatif, effrayant même. Mais c'est en fait extrêmement rassurant de savoir que notre vie dépend de Dieu et de Dieu seul. Et c'est dans ce contexte que Jésus va dire ces paroles de consolation, paroles de paix. C'est les versets suivants, les versets 29 à 31. Ne vend-on pas une paire de moineaux pour un sou? Et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Quant à vous-même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Vous avez de la valeur. N'ayez donc aucune crainte. Ne crains pas. Dieu est le seul qui pourrait te nuire. Or, tu es précieux à ses yeux. Il te connaît. Tu lui appartiens. Il t'aime. Tu ne risques rien si ta vie est cachée en lui. Tu n'as rien à craindre des hommes. Et le seul que tu pourrais craindre est en fait plein d'amour pour toi. Et rien ne peut te séparer de son amour. Jésus rassure, console, Dieu nous prend dans sa main comme un petit moineau et il nous protège. Et pourtant, ça n'en fait pas un Dieu qui nous arrange. Vous savez, on se fait souvent un Dieu qui nous arrange. On pense souvent que Dieu va nous aider à réussir notre vie et que notre vie sera confortable. Et puis que si on a Dieu encore avec, elle sera encore un peu plus réussie, un peu plus confortable. Et nous prions souvent pour que... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, ça m'arrive souvent de prier dans ce sens-là. Pour que Dieu permette à mes plans, à mes projets, à mes ambitions de se réaliser. Mais Dieu ne se laisse pas mettre en boîte. Dieu n'est pas à notre service. Dieu n'est pas à notre service. Dieu n'est pas une assurance, ni une thérapie, ni un atout supplémentaire pour notre épanouissement personnel ou la réussite de notre vie selon nos critères ou selon les critères de notre société. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à vivre pour lui, qui sont prêts à sortir de leur zone de confort pour lui. Et c'est ce qu'on voit dans la suite de ce chapitre 10, à partir du verset 32. Jésus dit « C'est pourquoi tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi devant mon Père, pour eux devant mon Père céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. » Être prêt à te déclarer pour Christ, pour Dieu, devant les hommes. Alors ici en Suisse, ça ne nous semble pas très difficile. Si quelqu'un te demande si tu connais Jésus, ce n'est pas très difficile de déclarer que tu es pour Dieu, que tu connais Jésus-Christ. Mais je crois que ça va plus loin que ça. Jésus nous demande d'être prêt à nous déclarer pour lui dans nos choix de vie. Prêt à vivre autrement. Prêt à faire passer Jésus-Christ et son appel sur nos vies avant toute autre considération. Prêt à te déclarer pour Christ, même si ça te coûte ton confort, ta vie réussie, un peu, ou même tout. Pour suivre Jésus-Christ, être prêt à perdre ta vie pour la retrouver en lui. Être chrétien, c'est pas réussir ma vie avec une dimension spirituelle en plus. C'est être prêt à me déclarer pour lui, à m'engager à sa suite et à lui faire pleinement confiance qu'il n'y a pas une vie plus réussie que la vie que lui peut me donner. Jésus-Christ donne la vie à des hommes et des femmes qui se déclarent pour lui, qui vivent pour lui parce qu'ils savent que leur vie vient de lui. Des hommes et des femmes prêts à entrer à son service, que ce soit dans un ministère, petit ou grand, prêts à partir en mission, au loin, mais aussi auprès avec mes voisins, à court ou à long terme. Des hommes et des femmes qui remettent en question leur train de vie pour se mettre à son service. Alors ça peut être la grande remise en question pour une vie, mais ça peut être aussi des petites remises en question dans mon quotidien. Des hommes et des femmes qui témoignent de leur foi, qui se déclarent pour Christ en parole et en acte, là où ils se trouvent, là où Dieu les a placés dans des petites et des grandes choses. Et puis Jésus continue ensuite avec cette parole qu'on a de la peine à comprendre, une parole qu'on préférerait presque qu'il n'ait pas dite, au verset 34. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Ah bon ? C'est justement ce que je croyais. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. » Jésus dérange. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Jésus, le prince de la paix, n'est-il pas celui par qui nous obtenons la paix? La paix avec Dieu? Oui, en Christ, nous avons la paix. Oui, Jésus console ceux qui sont affligés. Jésus réconforte, Jésus donne la paix qui ne dépend pas des circonstances. Mais cette paix n'est pas la tranquillité d'une vie réussie aux yeux du monde. Jésus dit qu'il donne sa paix, mais qu'il ne la donne pas comme le monde donne. Jésus donne sa paix à ceux qui sont prêts à se déclarer pour lui, à le suivre, quel qu'en soit le coût. Sous certaines latitudes, comme au Moyen-Orient en ce moment, les chrétiens comprennent ce verset très bien. Beaucoup mieux que nous, je pense. On a, avec notre église de la colline, et particulièrement Gaël est aussi en charge de ce ministère-là, d'aller à la rencontre des réfugiés dans un centre de l'EVAM, l'établissement vaudois d'accueil des migrants, qui est sur notre commune à Crissier. Et là-bas, on rencontre toutes sortes de gens avec toutes sortes de parcours, rarement des parcours faciles. Et on rencontre en ce moment pas mal de Syriens. Et puis parmi ces Syriens, il y a quelques chrétiens. Et ils savent. Ils comprennent ce verset. Ils savent ce que ça coûte de suivre Christ. Ils ne le savaient peut-être pas entièrement au moment où ils ont affirmé leur foi. Mais ils savent qu'en décidant de suivre Christ, ils ont choisi de s'opposer à leur famille, bien souvent, à leurs amis, à leur gouvernement même. Et puis beaucoup, en Syrie et ailleurs, le payent de leur vie, ou doivent fuir, ou rompre tout contact avec leurs proches. Et même parmi nous, je vous connais quelques-uns, mais pas beaucoup d'entre nous, même parmi nous, certains ont dû prendre position très ferme vis-à-vis de leurs parents ou de leurs amis pour affirmer leur foi en Jésus-Christ. Et certains d'entre nous, lorsqu'ils se sont convertis, ont dû faire face à l'incompréhension, voire à l'opposition de leur famille, au rejet de leurs amis. Certains ont été exclus d'un cercle ou d'un autre, un cercle d'amis, à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais ils savent que ça vaut la peine, parce que la paix que nous avons en Jésus-Christ ne dépend pas des circonstances, mais elle est donnée par Christ. La réussite de notre vie, c'est de suivre Jésus-Christ. Ils ont fait passer Jésus-Christ avant toute autre chose dans leur vie. Et ça, c'est la suite de notre texte. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Waouh, Seigneur, t'y vas fort. T'y vas vraiment fort. Vous savez, il y a deux options devant un texte comme ça. Soit on se dit, le gars qui dit ces paroles, c'est un gourou, le gars le plus dangereux qui soit. Soit alors il est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut avoir une prétention pareille. Jésus-Christ, comme Dieu, veut être premier en toute chose. Et Jésus va prendre l'exemple le plus extrême, l'attachement le plus fort, les liens familiaux. Et Jésus dit, pour me suivre, vous devez être prêt à me faire passer même avant ce lien-là. Pour me suivre, moi, Jésus-Christ. Et je m'empresse d'ajouter ça. Pas pour suivre un pasteur, ni un responsable quelconque, ni une église, mais pour suivre Jésus-Christ. Me faire passer avant toute autre chose, toute autre considération, tout autre lien. Et dans l'Ancien Testament, il nous est dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne tolère aucun autre Dieu. Rien qui pourrait prendre sa place. Et il veut être le seul Dieu dans nos vies. Et Dieu est le seul dont la jalousie est légitime. La jalousie de Dieu est bonne parce que nous lui appartenons et qu'il n'y a rien d'autre qui doit prendre sa place dans nos vies. Il nous a créés et puis Jésus a payé le prix par sa vie pour nous racheter, pour nous réconcilier avec Dieu. Il est entièrement, totalement, absolument, définitivement le seul digne d'être notre Dieu. Et rien ni personne ne peut passer avant Jésus-Christ dans notre vie. Dans ce passage, Jésus-Christ réclame l'adoration de ceux qui le suivent. Et on prend conscience que l'adoration va bien au-delà des mots. L'adoration qu'on a chantée tout à l'heure, elle ne se limite pas à nos mots. Elle nous engage dans nos vies entières, très concrètement, nous engage à le suivre. Jésus-Christ réclame notre adoration et c'est légitime. Lui et lui seul est digne d'être adoré. Jésus-Christ cherche des adorateurs qui ne gâchent pas leur vie à la réussir, mais qui sont prêts à perdre leur vie pour lui, qui sont prêts à mourir à eux-mêmes pour le suivre. Et on revient à notre texte de départ, Matthieu 10, verset 38. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. Ne gâche pas ta vie à la réussir. Ne cherche pas à sauver ta vie, à réussir ta vie par tes propres moyens, par tes propres forces, par tes propres critères. Tu la perdrais. Renonce à toi-même. Renonce à réussir ta vie par tes propres forces ou par tes propres critères. Mais vis pour Christ. Alors tu retrouveras la vraie vie, la vie en abondance qu'il nous promet, la vie que seul Jésus-Christ peut donner. Et ce matin, je suis là pour plaider avec vous, pour plaider avec toi. Ne gâche pas ta vie à la réussir. Ne gâche pas ta vie à la réussir. Ne cherche pas à réussir ta vie par toi-même. Tu la perdrais. Alors j'ai eu à peu près 30 minutes ce matin pour lutter contre peut-être des heures, des jours, des mois, des années pendant lesquelles d'autres voix s'élèvent pour nous vanter une vie réussie selon ce monde. Mais je plaide avec chacun d'entre vous. Je plaide avec toi et je t'appelle solennellement. Ne cherche pas à sauver ta vie, tu la perdrais. Ne cherche pas à réussir ta vie selon tes critères, tu vas la perdre. Renonce à toi-même. S'il le faut, renonce à tes ambitions, à tes plans de carrière, à tes projets de famille, pour que rien ne prenne la place de Jésus-Christ dans ta vie. Renonce-y, soumets toute chose à Christ. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, vis pour Jésus. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il a un plan pour toi. N'aie pas peur, il veut donner du sens à ta vie. Ne gâche pas ta vie à la réussir, mais vis pour Christ. J'aimerais vous inviter à incliner vos têtes dans la prière. On va prier ensemble. Ce matin, il y en a peut-être parmi nous qui n'ont jamais fait ce pas de donner leur vie à Jésus-Christ. Et puis si tu te dis ce matin, tu es là ce matin, puis tu te dis, c'est ça que je veux pour ma vie. Je ne veux pas simplement réussir ma vie, je veux une vie qui a du sens, que ma vie soit sauvée. Je ne m'en sors pas par moi-même. Je veux me décider à suivre Jésus-Christ. Oui, je crois que Jésus a donné sa vie pour moi, pour racheter ma vie, pour que ma vie ait un sens, une direction. Si c'est ce que tu crois et que tu veux proclamer ce matin, si c'est ce que tu veux, je t'invite simplement à lever ta main là où tu es. Levez ta main à ta place. Ouais. Merci. Tu lèves ta main, tu ne sais peut-être pas encore tout ce que ça implique. Tout ce que ça implique, mais tu veux ce sens à ta vie, cette vie pour Christ. Si tu veux accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, celui qui peut sauver ta vie pour pas que tu la perdes, il y a plusieurs qui ont levé leurs mains et j'aimerais simplement qu'on prie tous ensemble avec ces personnes qui ont levé leurs mains ce matin. On va faire une simple prière de conversion, une prière pour s'engager à la suite du Christ. Et puis ensuite, on avancera encore un petit bout. J'aimerais qu'on prie tous ensemble cette prière pour accompagner ceux qui la font peut-être pour la première fois. Et vous pouvez simplement répéter après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour. Je crois que tu es venu dans le monde pour donner ta vie pour moi. Je renonce à diriger ma vie sans te laisser la place qui te revient. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Et je reçois ton pardon. Je t'accueille maintenant comme le Seigneur de ma vie. Je veux te suivre. Viens vivre en moi par ton Saint-Esprit. Je te remercie de m'accepter tel que je suis. Amen. Amen. Et si vous avez fait cette prière ce matin pour la première fois, allez voir un des responsables de l'Église, le pasteur ou d'autres personnes responsables ici, pour ne pas rester seul avec cette démarche. Et je crois qu'il y en a d'autres parmi nous ce matin qui sont appelés à renouveler leur engagement à suivre Jésus-Christ. Peut-être que tu appartiens à Jésus depuis longtemps, mais ce matin tu réalises qu'il y a des choses qui ont pris sa place dans ta vie. Tu es en train de gâcher ta vie. Par petits bouts peut-être. Tu es appelé à réussir ta vie en Christ. À le laisser sauver ta vie dans tous les domaines. Tu essayes de réussir ta vie par tes propres moyens, mais abandonne. Abandonne-toi à Jésus et ne crains pas, ne crains rien. C'est lui qui va prendre soin de toi. Même les cheveux de ta tête sont tous comptés. Jésus t'aime, viens à sa suite. Et là aussi, peut-être tu ne sais pas encore exactement à quoi ça va te mener, mais tu désires suivre Jésus de tout ton cœur, avec tout ton être, avec toutes tes forces, quoi qu'il en coûte, un pas après l'autre, avec l'aide de son esprit. Et si c'est ça ce que tu veux, si c'est ce que tu veux proclamer ce matin, renoncer à toi-même pour retrouver la vie pleine que Jésus veut te donner, alors j'aimerais t'inviter à te lever à ta place. On peut faire ça? Que ceux qui sentent un appel ce matin à renouer avec cet engagement à suivre Jésus, et peut-être que ceux qui ont levé la main tout à l'heure, ils ont ce désir de se lever aussi pour manifester encore une fois leur engagement à suivre Christ. Je vous invite à vous lever. Et puis, tout à l'heure, on va chanter encore ce chant en réponse aussi au message qui dit « Reçois ma vie comme une adoration ». Mais je vais encore prier pour vous. Que ce soit pour un premier engagement à suivre Jésus ou bien que ce soit un réengagement à marcher à sa suite. Je vais prier. Et puis là aussi, après, si vous avez fait une démarche, si vous avez vécu quelque chose de fort, allez voir le pasteur ou un des responsables et puis partagez votre démarche pour être soutenu et accompagné aussi. Seigneur, merci parce que tu es agissant aujourd'hui et merci parce qu'on te voit à l'œuvre ce matin. J'aimerais te remercier pour mes frères, mes sœurs, ces hommes et ces femmes qui se lèvent ce matin et puis je me tiens debout avec eux. Pour manifester notre engagement à nous mettre en route à ta suite, à nous remettre en route à ta suite, Seigneur Jésus. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous cherchons à sauver nos vies par nous-mêmes, à réussir nos vies selon nos propres critères. Seigneur, viens conduire toutes choses. Prends la première place dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Donne-leur la sagesse et le discernement pour voir ce que ça veut dire au quotidien. De comment ça doit se manifester pour eux dans la vie qui est la leur. Ce à quoi ils sont appelés à renoncer. Ce au contraire à quoi ils sont appelés à persévérer, à continuer. Mais avec toi, en gardant nos yeux fixés sur toi. Merci Seigneur parce que c'est toi qui prends soin de chacun de nous. Merci parce que tu connais nos vies, tu nous connais parfaitement, tu connais même le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Tu nous connais dans les moindres détails. Alors Seigneur, viens nous donner cette paix, cette assurance que tu nous tiens dans ta main, cette assurance que c'est toi qui conduis nos pas, cette assurance qu'il n'y a pas de vie plus réussie qu'une vie qui est dirigée vers toi, qui est habitée de ta présence, qui est inspirée de ton esprit et nourrie par ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen.